spécial Society Expedition Nostalgie Orient-Express.
Service rapide, sans changement de voiture et sans passeport entre
Londres, Douvres, Boulogne, Paris, Avricourt, Karlsruhe, Munich, Salzbourg, Vienne, Budapest, Dijon, Lyon, Cannes, Nice, Rome, Lausanne, Milan, Venise, Trieste, Zagreb, Belgrade, Nis, Sofia, Salonique, Athènes, Istanbul, Eskişehir, Ankara, Adana, Alep, Mossoul, Kirkouk, Bagdad, Our, Bassora, Homs, Tripoli,
L'Orient Express,
Beyrouth,
Un rêve d'Europe,
Haïfa,
un documentaire de Mathias Sénard,
Port Saïd,
réalisé par Laure-Hélène Planchet.
Le Caire.
Ah, regarde, petit, le train que je t'amène. Il est devant toi, encore tout fumant.
Oh, il est formidable! Fiche un peu, papa!
C'est le plus beau qu'on ait trouvé en magasin, c'est le Simplon Orient Express.
Le Simplon Orient Express? Paris-Istanbul?
Première et deuxième classe via Salonique les jeudis et dimanches via Sofia les mardis.
Bravo, monsieur Martin, je vois que vous connaissez les classiques de la SNCF.
1883. Les réseaux ferrés sont suffisamment étendus sur le vieux continent pour permettre à un ingénieur liégeois, Georges Nagel-Makers, d'imaginer un train de luxe dans lequel on pourrait sillonner l'Europe comme dans un paquebot. Partir pour des croisières en terre et dans un confort digne des plus grands palaces immobiles. Nagel-Makers s'est inspiré des wagons Pullman qui traversaient les États-Unis d'Amérique, qu'il a largement amélioré, dit-il. Les wagons-lits sont nés, et la Compagnie internationale des wagons-lits avec eux. Des voitures où l'on dort confortablement avant de se rendre au bar, au fumoir, au restaurant, comme on le ferait dans un hôtel. Deux trains naissent cette même année 1883, l'Orient Express et le Rome Express, reliant destinations lointaines sans changement de voiture et sans passeport, en prenant son temps, certes, mais confortablement. Il manque juste des baignoires, remarquent les passagers. Tout le reste y est.
Ces voitures, elles représentent une révolution, une évolution en tout cas dans la manière de voyager et de se déplacer.
Arthur Mettetal, historien.
Ce sont des voitures déjà qui introduisent le lit et le restaurant, donc deux choses qui sont capitales et qui vont permettre de gagner énormément de temps sur des trajets longs. Les trains de la Compagnie des wagons-lits ont vraiment été inspirés par les paquebots qui sont les pionniers des voyages luxueux au long cours. C'est-à-dire que les paquebots, c'est vraiment le premier moyen de transport qui va permettre à des passagers, des clients, de voyager sur des très longues distances de manière très confortable. De toute façon, le développement du tourisme à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il s'articule autour de trois éléments. Donc c'est bien les paquebots, les trains de luxe et les palaces, donc qui concourent au développement du tourisme à la fin du 19e. Et donc, George Nagel-Makers, encore une fois, quand il va aux États-Unis, alors ça c'est un peu l'anecdote, mais il voyage en paquebot et donc il voit très bien ce qui s'y passe. Et donc, fils d'aristocrate belge, il connaît très bien tout cet univers. Et donc, ce n'est pas un hasard si d'ailleurs on a certains termes dans le vocabulaire qui sont identiques entre des trains et des paquebots. On parle de timonerie, on parle d'accastillage, on parle d'avitaillement. Dans l'histoire des trains, on s'arrange aussi, en tout cas la compagnie s'arrange pour que les trains soient en correspondance avec les paquebots, c'est-à-dire que par exemple le Sud Express, qui est un autre train qui relie Paris à Lisbonne, est en correspondance avec les paquebots au départ du Portugal pour l'Amérique du Sud. Le Rome Express est en correspondance avec, bon alors ce n'est pas un paquebot, mais avec les bateaux qui se rendent en Angleterre et ensuite à Liverpool pour les transatlantiques. Et aussi on a donc des décorateurs qui participent aux deux moyens de transport. René Lalique et René Proulx ont décoré à la fois des voitures de la Compagnie des wagons-lits et aussi des paquebots.
Où partons-nous ?
Pour le moment, à Avricourt, en Moselle. Première frontière, premier changement de locomotive. Nous avons quitté Paris-Gare de l'Est à 6h50 ce matin et l'Orient commence par une gare allemande. L'Orient est loin, l'Orient est tout proche. Nous allons changer notre locomotive française pour une teutonne, toujours à vapeur, de deux ou trois essieux. Essuie tes larmes. Certes, Deutsch Avricourt en Moselle, c'est la Prusse aujourd'hui. D'Avricourt à Strasbourg, nous roulons sur des chemins de fer annexés en 1870 par les Allemands. Mais tu sais bien que cela ne va pas durer. Les voies changeront de propriétaire en 1918. Aujourd'hui, nous allons traverser l'Alsace, le Bade, le Württemberg, la Bavière, pour atteindre le Danube. Le Danube, c'est déjà l'Orient.
Certes, mais où commence vraiment l'Orient ? À Istanbul ? Bien avant ? En Moselle, donc ?
L'Orient, en vérité, commence dans la locomotive, dans le feu. dans le charbon qui fait le feu, qui fait la pression de la vapeur, qui actionne les bielles, qui font tourner les roues, qui déplacent sur des rails. Plus de 3000 km de rails pour un Paris-Istanbul, rails dont on a l'impression qu'on ne les pose jamais assez vite, qui déplacent sur les rails plusieurs centaines de tonnes de victuailles, bouteilles, fauteuils, lits, bagages, toilettes, tables, chaises et livres pour la bibliothèque. Certes, le premier voyage de l'Orient Express date de 1883, mais le train n'atteindra Constantinople, la gare de Sirkeci à Istanbul, qu'en 1888. L'Orient, dans le mot Orient Express, c'est le feu sacré des temples du feu que sont les locomotives à vapeur, les Pacific 231, les Maffei S36, les Allemandes, les Belges, les Françaises. L'Europe que l'on traverse à toute vapeur, c'est l'Europe du charbon et de l'acier, l'acier des armes et des obus. L'Europe des guerres toutes proches. Guerre franco-prussienne en 1870, 1878, guerre russo-turque, guerre serbo-bulgare en 1885, 1897, guerre gréco-turque, guerre des Balkans en 1912, première guerre mondiale en 1914. L'Orient Express roule entre les gouttes de la guerre, entre deux trains militaires, dans cet endroit que l'on surnomme la poudrière des Balkans et dont l'imaginaire véhicule à la fois le danger, l'exotisme et la passion, le feu. Les noms changent tout. Ce n'est pas l'Express d'Istanbul, c'est l'Orient Express. Et si le Rome Express, qui commence à circuler à la même époque et avec le même luxe, n'est pas aussi mythique, c'est sans doute parce que le nom de destination évoque quoi ? La destination. Et peut-être parce que le royaume d'Italie, pays phare des voyageurs européens du XVIIIe et du premier XIXe siècle, est trop parcouru. Que l'orientalisme est passé par là et a ouvert d'autres territoires aux fantasmes de tout un chacun.
L'Orient Express est aussi un omnibus européen, entre guillemets, en tout cas de l'Europe centrale, alors que le Rome Express, qui est lancé donc un mois plus tard, c'est vraiment le deuxième grand train de la compagnie des wagons, qui s'appelle d'ailleurs au départ le Calais Paris, Nice, Rome Express. Et en fait, pourquoi Calais ? C'est que ce train est là pour capter la clientèle touristique britannique qui arrive donc à Calais. Et le train Rome Express, au départ, est bien en correspondance avec les bateaux qui relient Douvres. Donc, on a plus là un train à destination d'une clientèle touristique, notamment britannique, hein, qui se rendent sur la Riviera française, ensuite sur les Rivieras du Ponant et du Levant en Italie, donc entre Vintimille et Gênes, et Gênes et Pise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce train est saisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, les premières années jusqu'en 1890, donc le Rome Express, ne fonctionne pas entre mai et novembre. Donc c'est un train hivernal, en fait, qui permet à la clientèle britannique de se rendre sur des territoires où le soleil est là, et les stations balnéaires qui se développent dès le milieu du 19e siècle.
On se sent sur un être vivant, il n'y a pas à dire. La machine à vapeur, le mécanicien, le chauffeur, avait toujours le nez sur les voyants. Il y avait dans une machine à vapeur 10 ou 12 contrôles, contrôle de pression de ceci, pression de cela. Alors, les mécaniciens, l'équipe d'un train à vapeur, d'une machine à vapeur, prenaient déjà son service une heure avant de monter sur la machine. Alors, c'est pour vous dire que la machine à vapeur, c'est un ogre en temps humain, un ogre en charbon, bien sûr, mais ça nécessitait des soins constants. La machine électrique, le conducteur monte sur la rame, il relève le compteur électrique, il vérifie que ses contrôles sont bons, puis il va se mettre en tête d'être. C'est tout.
Si on se replace aujourd'hui dans la nouvelle redynamique des trains de luxe, des trains internationaux, la vitesse n'est plus un argument. On parle maintenant de l'éloge, de la lenteur, etc. Donc on est vraiment à l'opposé de ce que proposait la compagnie. Et en termes d'argument commercial, on a quelque chose qui s'est complètement inversé.
Pour avoir un train, pour tirer des wagons luxueux, il faut certes des locomotives que l'on change à chaque frontière, des rails pour les faire rouler, mais aussi des gares. Qu'on y monte ou qu'on n'y descende pas, le parcours de l'Orient Express se couvre de gares. Certaines mirifiques, comme la gare de Munich, véritable palais ferroviaire. Ou plus tard, la gare de Milano Centrale, véritable temple d'Akhenaton pour locomotives. Mais d'autres, se plaignent les voyageurs, ne sont que de pauvres hangars mal éclairés. Voire même, quand on s'enfonce dans les Balkans, de simples maisons. Aux grandes dames des passagers qui s'attendent à ce que leur propre faste, le luxe qu'ils transportent avec eux, est déjà déteint sur les territoires qu'ils traversent. à travers les passagers de l'Orient Express, c'est l'Europe qui célèbre elle-même ses beautés et montre de quelle façon elle cherche à transformer au pas de course les territoires qu'elle domine. Pourvu qu'on paye. Les investissements en infrastructures ferroviaires, qu'ils soient turcs ou balkaniques, sont réalisés grâce à des prêts des banques d'Europe de l'Ouest. L'Orient Express participe à la maladie de cet empire ottoman qu'on nomme l'homme malade de l'Europe. On lui fait payer les microbes au prix du médicament.
Dans l'Orient Express, on voyage clairement d'une Europe à l'autre.
Blanche El Gamal, spécialiste de littérature comparée.
Et la frontière des Balkans en particulier est très sensible. Cette région restant largement inconnue des voyageurs qui sont essentiellement des Européens occidentaux. Et les Balkans sont associés à un imaginaire sombre, terrible, celui de Dracula, un roman de Bram Stoker qui date de 1897, aux brigands, à la sauvagerie. Et les Balkans sont également associés de manière plus sérieuse à la question d'Orient, donc au désordre et aux révoltes liées à l'éclatement de l'Empire ottoman, qui est entériné en 1878 au traité de Berlin. Les grandes puissances ont alors décidé de partages jugés inacceptables, notamment en Serbie et en Bulgarie, qui mèneront aux guerres balkaniques de 1912, deux ans avant la Première Guerre mondiale. Les paysages peuvent être extrêmement beaux. Si on consulte les guides de voyage, on s'aperçoit qu'il y a des grands pôles d'attraction, notamment en Autriche. Les paysages autrichiens sont vantés, avec les châteaux, les montagnes. On voit de belles choses, mais c'est aussi fonction de ses propres préférences et fonction de nationalité. Aucun paysage ou à peu près n'est beau en Allemagne pour un Français ou pour l'auteur d'un guide français. Après la Première Guerre mondiale, les pôles d'attraction se déplacent quelque peu. C'est la Suisse qui attire les regards. Il y a beaucoup de belles descriptions de la Suisse, par exemple des rives du Léman ou de l'approche de Venise en Italie. Il y a aussi des villes beaucoup moins appréciées à la fois des voyageurs et des auteurs de guides, comme Belgrade, où, dit-on, il n'est pas nécessaire de passer plus de 48 heures.
Alors quel itinéraire prenons-nous finalement ? Le premier Orient Express jusqu'en 1888, par le Danube jusqu'à Varna ? Ou la route des Balkans par Niš, le sud de la Serbie et Andrinople ?
Nous allons prendre le trajet le plus long, pour passer le plus de temps possible dans le train, à se laisser poncer les yeux par le paysage. Les premiers kilomètres, sur les réseaux français et allemands, sont les plus rapides. Ensuite, l'Autriche-Hongrie fait ce qu'elle peut, avec ses montagnes et ses longues courbes coincées entre les vignes en coteaux et le Danube. À Budapest, nous prendrons la route de l'Est, à travers la Pushta. Nous franchirons la Save, à la limite de la Voïvodine, sur un grand viaduc qui nous conduit à la gare blanche de Belgrade. Elle nous ouvrira les portes du Sud. Nous roulerons vers Niš, la ville aux mille crânes serbes amoncelés par les Turcs. La ville où se sépare l'express de Stamboul et celui de Salonique, qui filera ensuite plein sud vers Athènes. Mais pour le moment, traverse la frontière ottomane à Zibefce et on fonce, tiré par une motrice allemande, vers Üsküp, qu'on n'appelle pas encore Skopje, avant d'arriver à Salonique, ville des mosquées et des synagogues. Ensuite, nous remonterons vers le nord pour rattraper le train de Constantinople avant qu'il ne parte vers Andrinople. Andrinople-Constantinople, c'est-à-dire Edirne-Istanbul, 250 km de voie que l'Orient Express met 10 heures à franchir, à la mirifique vitesse moyenne de 25 km/h. Les voyageurs se lassent un peu des abords d'Istanbul, de ses banlieues pas toujours reluisantes.
Je considérais avec une attention morose les faubourgs de Stamboul que traverse la voie ferrée. Masures lépreuses, pavoisées de linge, de loques multicolores que le soleil a fanées et les lavages. Ruines habitées, chambres entrevues à travers les mouches arabiais. Vides de tout meuble, ornées parfois d'un portrait du sultan ou de l'empereur d'Allemagne que l'on a coupé dans un journal et collé à plat sur le mur blanc. Devant la porte des cafés borgnes, groupe de fumeurs accroupis autour d'un seul narguilé. Et, marchant à pas maladroits, pieds nus, sur les détritus séchés des ruelles, des bébés comiques, charmants, costumés comme des poupées de collection, empêtrés dans leurs cafetans verts et roses, dans leurs longues robes à mille raies. Abel Hermant, confession d'un homme d'aujourd'hui.
Mais néanmoins, on est arrivé à Constantinople. Voici comment décrit la ville un hôte de marque, l'auteur américain John Dos Passos, descendu de l'Orient Express en 1922.
De jour en jour, les collines sont de plus en plus pelées et arides. Le train avance de plus en plus lentement. Les chefs de gare ont la moustache de plus en plus longue et un uniforme de plus en plus miteux. Et puis enfin, nous serpentons entre une mer d'un vert vif et des caps blonds brûlés de soleil. Soudain, le train est pris entre des murs croulants couleur moutarde. La voie passe parmi des tas d'ordures et des cyprès. Le train ne bouge presque plus. Il s'arrête imperceptiblement comme sur une voie de garage. Est-ce ? Non, mais si. Ce doit être Constantinople. Le plaisir réside dans le train plus que dans le décor. Certes, on cherche à apercevoir des minarets, des ruines romaines, mais le train, au-delà de son nom, c'est avant tout le principe d'un sleeping car, un wagon-lit, et donc le plaisir d'avancer en dormant. Nous avons choisi notre destination, notre trajet. Voyons un peu maintenant comment dormir. La Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens est la première à proposer des trains dans lesquels on dort. Des trains hôtels, tout à fait confortables, semble-t-il, ou presque. Tatac-tatoum, ça dissimule les ronflements.
La promesse des trains et des voitures de la compagnie, c'est de pouvoir dormir à bord, c'est-à-dire l'intégration de voitures au lit.
Arthur Mettetal.
Et donc, on est là dans une révolution du développement à la fois ferroviaire, mais aussi de l'accompagnement du développement des flux touristiques internationaux. Et donc, il est possible de dormir à bord d'un train avec, en plus, des conditions plus que confortables, c'est-à-dire dormir aussi bien que dans son propre lit, avec des éléments qui sont très importants et qui garantissent le confort et le luxe de ce type de transport. Ça va être notamment le linge, les draps qui sont immaculés et du coup qui va pousser la compagnie à organiser un système de blanchisserie qui vont se répartir absolument partout en Europe, mais aussi le service à bord avec le conducteur, la personne qui est référente dans chaque voiture lit et qui va être au petit soin pour chacun des passagers en termes de confort et du moindre besoin. Le train s'arrête aux frontières et à chaque frontière, il y a un contrôle des papiers d'identité des passagers. Quand ils arrivent dans leur voiture-lit, les passagers donnent au conducteur leur passeport et comme ça, les voyageurs ne sont pas dérangés au passage des frontières. C'est-à-dire que c'est le conducteur qui donne aux autorités le passeport de ses passagers et qui en a la charge. Les voitures-lits, comme les voitures-restaurants ou les voitures-bars, etc., ont vraiment évolué d'un point de vue technologique et technique tout au long de l'histoire des trains de la compagnie. Les améliorations des voitures ne sont pas forcément uniquement dans la décoration ou les matières, etc. On a aussi des révolutions technologiques, par exemple l'introduction du bogie. Donc le bogie, c'est vraiment le chariot sur lequel reposent les voitures, avec les essieux. Et donc c'est l'introduction de ce bogie qui va limiter les mouvements de la voiture et le fait que les passagers soient inconfortés par les mouvements du train, etc. Et donc ça, par exemple, dès 1883, l'Orient Express en est doté et donc les passagers connaissent un confort de roulement qui est bien supérieur aux voitures qu'ils ont pu déjà emprunter. Et après, on a les voitures qui s'allongent, donc la place dans les cabines est de plus en plus grande. On a aussi des améliorations en termes d'éclairage. Au début, on est sur de l'éclairage au gaz. Ensuite, on va passer avec une dynamo. On a aussi des améliorations en termes de sanitaire, c'est-à-dire de lavabo, voilà, de petites choses comme ça. Et tout ça va évoluer pour, en fur et à mesure, atteindre des normes qui sont tout à fait luxueuses.
Bien sûr, en confiant son corps à un train qui va se transformer en hôtel, on déplace avec lui les fantasmes hôteliers sur des roues. Nous connaissons tous déjà les liens étroits qui unissent érotisme et orientalisme. Les princesses orientales, bien sûr, les Asiadées dont le voile accentue le mystère et donc la beauté sont un des trésors cachés de l'Orient Express, sans doute. Guillaume Apollinaire y glisse dans la pornographie. Dans les 11 000 verges, le hospodar moldovalak héros du roman, répondant au nom de Moni, ne résiste pas à l'érotisme des vibrations du train.
Le prince Moni et Cornabeu avaient pris place dans l'Orient Express. La trépidation du train ne manqua point de produire aussitôt son effet. Moni banda comme un cosaque et jeta sur Cornabeu des regards enflammés. Au dehors, le paysage admirable de l'est de la France déroulait ses magnificences nettes et calmes. Le salon était presque vide. Un vieillard podagre, richement vêtu, geignait en bavant sur le Figaro qu'il essayait de lire. Moni, qui était enveloppée dans un ample raglan, saisit la main de Cornabeu et, la faisant passer par la fente qui se trouve à la poche de ce vêtement commode, l'amena à sa braguette. Le colossal valet de chambre comprit le souhait de son maître. Sa grosse main était velue, mais potelée et plus douce qu'on aurait supposé. Les doigts de Cornabeu déboutonnèrent délicatement le pantalon du prince. Ils saisirent la pine en délire, qui justifiait en tout point le distique fameux d'Alphonse Allais. La trépidation excitante des trains nous glisse des désirs dans la moelle des reins. Mais un employé de la compagnie des wagons-lits qui entra annonça qu'il était l'heure de dîner et que de nombreux voyageurs se trouvaient dans le wagon-restaurant.
Apollinaire s'amuse comme un petit fou à inventer un crime de l'Orient Express, bien plus gore et sexuel que celui de la chaste et prude Agatha Christie. Tous les grands express internationaux, comme les palaces d'ailleurs, sont le lieu rêvé pour une lune de miel, ou, plus simplement peut-être, une rencontre amoureuse en général, que celle-ci soit ou non suivie d'un coït ferroviaire. Tatak tatoum.
Le sommeil est une question très importante pour des voyageurs habitués au luxe des grands hôtels.
Blanche Elgamal.
L'idée de Nagelmakers, c'était de faire une sorte de palace sur rail adapté aux normes et aux goûts européens. Le confort est très relatif, mais c'est tout de même bien mieux que ce qui existait auparavant, notamment par rapport à ce que connaissaient les voyageurs européens qui ne sont guère habitués au confort. Mais les plaintes et les complaintes abondent chez les voyageurs américains et anglais en particulier, français de temps en temps, sur la question de la literie. Par exemple, le romancier mondain Abel Hermant, auteur qui a consacré une dizaine d'ouvrages aux chroniques mondaines dans lesquelles l'Orient Express a souvent une place assez importante, raconte dans La Confession d'un enfant d'hier qu'un personnage se livre à d'improbables acrobaties pour regagner sa couchette, laquelle est fort étroite. Mais plus amusant encore, le romancier britannique Maurice Baring, qui est un ami de longue date de Virginia Woolf, dit qu'il fait trop chaud ou trop froid, selon l'endroit où est le voyageur, à proximité du poêle ou non, et que le couchage est d'un inconfort absolu, la couverture, elle est pliée en deux, elle est trop courte, si on a des plis, elle est également pas assez épaisse, enfin bref, une sorte de catastrophe, mais il raconte également, pour nuancer un peu son jugement, que tout voyage en train est inconfortable.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'Orient Express ?
C'est le plaisir des sens. Parce que je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir tous les plaisirs des sens réunis. Vous avez l'odorat, parce que ça sent le train. Vous avez vu les chaudières. Vous avez l'odeur du bois. Vous avez la vision, bien sûr, tous ces regards qui dérapent sur ces choses luisantes. Enfin, c'est fabuleux, il faut le dire. Vous avez aussi le plaisir du toucher, parce que, bon, toutes ces choses, on peut les toucher. Alors, pour moi, ça donne une espèce d'ambiance, je dirais même un peu érotique. Il y a non seulement le plaisir des sens, mais il y a aussi le fait que tout est à portée de main et que tout est très facile. On sait en fait ce qu'il y a ici dans le Trans-Europe Express, c'est la jouissance totale.
L'érotisme est une dimension très importante dans l'Orient Express. Alors les aventures sont inévitables dans les trains réels comme dans les trains littéraires. Pensez à la scène de Bellamy où Madeleine Forestier est assaillie par Bellamy sur le trajet Paris-Rouen. Le train est lié de manière générale aux transports en tout genre. Donc c'est un topos littéraire ou d'une certaine littérature, et le plus luxueux des trains se doit d'abriter quelques aventures érotiques haut de gamme. Après, dans le train réel, il y avait des businessmen affairés, des ingénieurs sérieux, des passagers parfois inquiets, et tous ne s'adonnaient pas à la gaudriole avec une Madone des Sleeping ou une Matari. C'est une légende.
C'est exquis, délicieux, admirable. Moni, tu es un poète archi-divin. Viens me baiser dans le sleeping car, j'ai l'âme foutative. Moni régla les additions. Mariette et Cornabeu se regardaient langoureusement. Dans le couloir, Moni glissa 50 francs à l'employé de la compagnie des wagons-lits qui laissa les deux couples s'introduire dans la même cabine. Vous vous arrangerez avec la douane, dit le prince à l'homme en casquette. Nous n'avons rien à déclarer. Par exemple, 2 minutes avant le passage de la frontière, vous frapperez à notre porte. Dans la cabine, ils se mirent tous les quatre à poil. Mariette fut la première nue.
Nous voici couchés. C'est notre nuit de noces, ou peu s'en faut.
Oui.
Le matelas est confortable, il y a de la lumière au gaz. L'électricité n'arrivera que dans les années 30. Peut-on lire dans son lit ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on rebondit sur son matelas à chaque joint de dilatation entre deux rails ? Ce trajet ne gagnerait-il pas à être un peu plus court ? Une des grandes transformations du parcours de l'Orient Express, c'est l'ouverture du tunnel du Simplon entre le Valais suisse et la région de Domodossola en Italie. Notre train peut donc infléchir sa course pour devenir le Simplon Orient Express via Venise.
Le développement des trains de la compagnie des wagons-lits pour l'Orient Express et le Rome Express dépend évidemment des progrès technologiques autour du rail et du ferroviaire. Et donc les tunnels sont un élément absolument fondamental dans le développement des réseaux ferrés et de l'amélioration des dessertes entre pays. Et donc par exemple, si on prend le tunnel du Simplon, donc qui est le tunnel qui est percé en 1905 en Suisse, va permettre l'ouverture en fait d'une nouvelle voie pour rejoindre l'Italie. Et donc à partir de 1905, on a d'ailleurs le Simplon Express, donc qui n'est pas un Orient Express, mais qui est un train qui va directement de Paris sur les territoires suisses. Et donc en 1919, le Simplon Orient Express, donc qui met Simplon dans la dénomination Orient Express, nous dit bien que à partir de cette date-là, le train ne passe plus par l'Europe centrale, qui est aussi une volonté des alliés victorieux d'isoler l'Allemagne vaincue, etc. Et donc passe par le tunnel du Simplon pour rejoindre directement l'Italie, donc par Milan, ensuite Venise, etc. et continuer sa route vers Constantinople par ce qu'on appelle la voie sud, donc qui est différente de la voie historique nord en Europe centrale.
Quando sei con me.
En route pour l'Italie, alors.
Oui.
Non a più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi.
Nous allons donc passer par Venise. Venise est une porte de l'Orient. Il n'y a qu'à lire Corto Maltese d'Hugo Pratt pour s'en convaincre. Mais je préfère avancer vers Istanbul, puis traverser le Bosphore et attraper le Taurus Express jusqu'à Bagdad ou Jérusalem, voir le Caire. L'Orient, premier des sphinx et des pyramides.
L'Orient, c'est le produit d'appel de l'Orient Express. L'Orient, dans son acception la plus large, a été rêvé par tout le 19e siècle européen. C'est le grand siècle de l'orientalisme, chez les peintres et chez les poètes notamment. Et Constantinople, c'est la porte de l'Orient. En outre, l'arrivée du train dans la ville coïncide à la fin du 19e siècle avec le succès des romans de Pierre Loti, qui est encore très connu aujourd'hui à Istanbul, dont le nom reste associé à la ville. Ainsi, l'Orient Express, c'est comme un tapis magique qui transporte les voyageurs en Orient. Quand on regarde les premières affiches des années 1888-1891, c'est toujours des portes orientales, des minarets que l'on voit sur les affiches. Et c'est toujours l'Orient Express et jamais l'Occident Express dans l'autre sens. Ça reste l'Orient, mais également l'Express, puisque l'Orient Express, c'est le moyen de transport le plus rapide pour se rendre à Constantinople depuis une des grandes villes du parcours, une des villes desservies par le train. L'Orient Express relie Paris à Constantinople en moins de 3 jours, alors qu'il fallait à peu près 3 mois 100 ans avant.
Les brumes fertiles en rêverie des cervelles des ivrognes, soifards et autres intempérants, l'idée d'un bar roulant comme remède à la mélancolie et à la longueur du voyage a dû naître il y a bien longtemps. Mais les premiers à avoir réalisé ce fantasme pour ceux qui en ont les moyens, en Europe, c'est la Compagnie des wagons-lits, qui propose dès 1883 une bibliothèque fumoire dans laquelle on peut boire, ancêtre de la voiture-bar qui apparaîtra bientôt au tournant du XXe siècle. Une bibliothèque fumoire pour les hommes avec leur cognac, leur chartreuse, leur whisky, leur petit verre masculin, pendant que les femmes boivent du Jerez et autres Porto, Sherry ou Malaga entre elles au boudoir. Le train reproduit l'agencement de la maison bourgeoise de l'époque, que les hôtels de luxe avaient déjà copié. Le salon de billard en moins, faute de place. Mais alors, qui rencontre-t-on dans cette voiture-bar, un verre à la main ?
Entre les repas, je reste dans l'intimité de mon petit compartiment vert, plein de poignées et de garnitures nickelées, à parcourir le livre de deal qui est très ennuyeux, interrompu de temps en temps par des préposés au passeport, des douaniers, des détectives, la police secrète ou le porteur, un Belge d'un certain âge, poussif comme une locomotive, un homme irrévocablement épuisé pour avoir parcouru trop de kilomètres de chemin de fer, compté trop de poteaux télégraphiques, ôté trop d'escarbilles sur les sièges de peluche. Aux arrêts, je fais les 100 pas en compagnie d'un Français délicat qui fume les cigarettes locales. Il parle en connaissance de cause de Bucarest, d'amour, d'assassinat, de ménage à trois et de diplomatie. Il sait tout, et ses cols et ses manchettes sont toujours immaculées. Aller dans le luxe, il faut toujours aller dans le luxe. C'est sa grande devise.
Voilà la description que fait l'Américain John Dos Passos de ses compagnons de voyage en 1922. Et avouons que le Français fait très envie. Oh, Frenchie, ménage à trois. Il faut toujours aller dans le luxe. Ou vers le luxe.
Les voitures-bars sont vraiment dans l'histoire de la compagnie, à part, on imagine déjà aujourd'hui la place qu'a un voiture-bar, voiture-restaurant, mais à l'époque, il faut s'imaginer des voitures où d'ailleurs c'est d'abord un lieu de convivialité, où il se passe des choses, où on rencontre des personnes, où on discute, etc. Donc on n'est pas dans sa cabine, on est vraiment dans un univers bruyant avec plein de choses, et avec parfois, oui, des choses, un boudoir, un salon de lecture avec différents journaux, une bibliothèque. On avait même dans certaines voitures des reconstitutions de jardins d'hiver, etc. Donc c'est vraiment la voiture-bar un élément très important dans l'histoire de la convivialité dans les voyages ferroviaires.
Devant vous, le bar, un petit bar très élégant d'ailleurs, toujours aux mêmes couleurs, ces couleurs rouge, marron, et ce décor floral, c'est de très beaux bouquets de fleurs que vous trouvez de chaque côté du bar. Mais c'est aussi une voiture salon puisque nous avons là 26 sièges en cuir rouge, cuir d'Espagne, d'ailleurs cuir de Cordoue. Vous avez devant vous, et vous l'entendez en fond sonore, et c'est ce que nous entendons pratiquement tout le temps, nuit et jour, pratiquement à bord de ce train, ce piano qui avait été acheté par Coco Chanel et qui est notre centre de distraction et d'animation sur la voiture pratiquement nuit et jour. Alors cette voiture comporte un merveilleux décor de présentation de cristaux de lalique. Vous voyez, entre chaque fenêtre.
Boisson. Cognac, Jules Sauget et compagnie. Fine champagne, idem. Scotch whisky, John Dewar. Quinquina Michaud. Grand Marnier, ruban rouge. Triple sec, Cointreau. Mocatine, liqueur suprême. Curaçao, Lucas Bols. Absinthe, Pernod. Suprême, Fécamp. Vermouth de Noailly, vermouth de Turin, cherry brandy Lucas Bols, rhum des plantations Saint James, eau Apollinaris, eau d'Evian, eau de Guy Soubler, eau La Celtique, eau de Saint-Galmier, eau de Vichy, eau de Vittel, Schweppes Soda Water, bière La Nationale, bière Pale Ale, bière Duménil.
Depuis combien de temps êtes-vous pianiste de bar sur l'Orient Express?
Ici, c'est une année que j'ai joué dans le train.
Et vous étiez depuis longtemps pianiste de bar?
Oui, oui, dans Padova. Je suis de Padova. Oui, j'ai joué dans le café Pedrocchi et des hôtels-restaurants d'Europe.
Et quelle est la différence quand on joue dans un train?
Oh, le train, c'est spécial, fantastique expérience. La différence, c'est que dans les piano-bars, en Padova et jouer 3-4 heures ici et jouer 10 heures par jour.
Americans, French, Italian doesn't drink the same thing. Well, mostly Americans, they drink gin martini, cocktail martini, or Bloody Mary, especially in the morning, early morning. Or French prefer a Dubonnet or Ricard, ou bien du Quai Royal, Et pas beaucoup de glace dans les cocktails hein, pour les Français.
Le bar et le restaurant, assez curieusement, ne sont pas tellement exploités par la littérature de l'Orient Express, sinon pour dire qu'on y mange très bien. Dans l'Orient Express, on passe le temps, on mange, on boit, on dort. On parle de géopolitique et l'Orient Express est une sorte de baromètre des relations internationales, notamment à l'approche des guerres et à partir des guerres balkaniques. Les conversations sont inquiètes, on lit les journaux, on échange, on discute, parfois on polémique ou on se dispute. Ça dépend beaucoup de l'occasion du voyage. Dans un voyage inaugural, tout le monde est très poli avec tout le monde et les Français ne parlent pas aux Allemands. Mais il n'y a pas de petite tension, mais c'est plus ou moins impalpable. En revanche, lorsqu'il y a une approche de guerre, là, c'est beaucoup plus tendu.
Malgré la passion qu'il vouait à son activité archéologique, Laurent s'était convaincu d'avoir amené une autre mission. Laquelle ? En s'engouffrant dans l'Orient Express, il ne le savait pas encore. Mais la situation à l'époque prêtait à toutes les aventures. Le vieil empire ottoman commençait à craquer de toutes parts. L'Allemagne, l'Angleterre et la Russie n'attendaient que sa chute pour bondir sur son cadavre. En 1914, peu avant la déclaration de guerre, Lawrence effectuait une prospection du désert du Sinaï. Mais ce voyage d'études archéologiques servait en fait de couverture aux travaux d'un officier du génie, chargé d'établir la carte de la région en prévision d'un conflit éventuel avec la Turquie. En juin, il participait à une nouvelle mission. Cette fois, il s'agissait d'effectuer des repérages sur la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad pour un projet alternatif à l'Orient Express. Le 2 août 1914, alors que la Turquie, alliée de l'Allemagne, prenait les armes contre l'Angleterre, la révolte arabe devenait tout à coup un facteur important de la stratégie britannique. Le roman de l'Orient Express, Vladimir Fedorovski.
Dès l'origine, mais surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, le rail est un instrument au service du pouvoir politique. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que la Compagnie des Wagons-Lits est une entreprise belge. Et donc ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que Léopold II, qui va soutenir vraiment le développement de sa compagnie, la Belgique étant aussi à l'époque une puissance coloniale avec d'autres territoires, sait très bien qu'en soutenant la Compagnie des Wagons-Lits, il assoit un pouvoir technologique qui est d'influence culturelle, etc. etc. Et donc l'Orient Express fait partie aussi de cette stratégie de domination par le rail, avec d'ailleurs des pays, on pense à la Bulgarie, donc Ferdinand II de Bulgarie, va tout faire pour que ce train passe par la Bulgarie, puisqu'il est aussi le symbole de la modernité, donc c'est-à-dire que même pour les souverains d'État et d'empire, il est important que le fer de lance technologique, du luxe, etc., occidental, puisse parcourir et traverser leur territoire. Et donc cette question de savoir si l'Orient Express est aussi un train colonial, donc vraiment dans un sens, c'est-à-dire Occident-Orient, va trouver encore une justification avec le Taurus Express, qui est vraiment la prolongation de l'Orient Express au départ de Constantinople, vers la Syrie, vers l'Égypte, vers tous les territoires du Moyen-Orient, qui prouve aussi que ce train est quand même un train politique.
Pour aller un peu plus vers le luxe, franchissons le Bosphore en bateau pour rejoindre la gare d'Asie, la gare d'Haydar Pacha, à l'immense façade et aux deux tours qui s'avancent sur le Bosphore comme un palais princier.
Sous ma fenêtre, une route poussiéreuse, creusée d'ornières, avec ça et là un pavé solitaire sur lequel sautent et tintent les charrettes qui montent à Péra en brinque-ballant, ou descendent avec fracas vers le vieux pont, à longueur de journée, de l'aube jusqu'au soir. Plus loin, de hautes maisons encore plus serrées qu'à New York, un toit en terrasse où une fille aux jambes nues étend du linge, et puis des tuiles rouges, et au-delà, les cyprès poussiéreux d'un cimetière, des mâts et la corne d'or, d'un bleu acier, avec des bateaux à l'ancre. Plus loin encore, sur un fond de ciel nuageux, Stamboul. Des dômes, des maisons presque noires, des minarets éclatants un peu partout, semblables aux petits bonshommes d'ivoire qui marquent les points sur la planchette au jeu de cribbage. John Dos Passos, Orient Express.
Nous embarquons dans le Taurus Express, le fils de l'Orient Express, ou l'Orient au-delà de l'Orient, héritier du Bagdad Ban, construit par les Ottomans et les Allemands entre 1903 et la Première Guerre mondiale. Les voies du Bagdad Ban seront tristement utilisées par les Ottomans pour déporter les Arméniens d'Anatolie en Syrie avant de les massacrer. À la fin de la Première Guerre mondiale, le réseau est repris par la Turquie et la France et la Grande-Bretagne, puissances mandataires sur la Syrie et l'Irak. Le Taurus Express permet, dans le luxe des grands express internationaux, de relier Istanbul à Mossoul, Istanbul à Alep, puis à Beyrouth, avec une prolongation en Palestine et en Égypte. Le Caire devient donc accessible en wagon-lit depuis Londres ou Paris. Entre Port Saïd et le Caire, circulait déjà un train de la Compagnie internationale des wagons-lits et en 1907, très précisément le 8 avril, voici ce qu'on pouvait manger, à défaut de boire, dans le train au déjeuner.
Hors-d'œuvre variés, œufs brouillés aux truffes, côtelettes de veau, pommes purées duchesse, aspics de foie gras à la Lucullus, oies de Styrie rôties, salade de cresson, parfait aux pralines, glace à la crème, fromage, grand dessert, café.
L'oie de Styrie avait dû faire le voyage en volant, on suppose, jusqu'au delta du Nil. En tout cas, si le train roule bien en Égypte, on ne peut pas dire qu'il y déjeune. Pas de foule ni de kouchari au menu.
La caractéristique du luxe ferroviaire qu'on peut analyser dans l'histoire de la Compagnie des wagons-lits, c'est qu'elle s'appuie
Arthur Mettetal
sur un système technique qui allie à la fois donc des compétences industrielles, c'est-à-dire des ateliers ferroviaires, donc avec toutes les images que l'on a, la chaudronnerie, enfin les choses un peu gigantesques. Et parallèlement à ça, on a aussi tout un savoir-faire qu'on pourrait qualifier de plus artisanal. On a donc des marqueteurs, des ébénistes, des tapissiers, des électriciens, des blanchisseurs au service des passagers, qui concourent avec tout leur savoir-faire et leur implication dans le fait de garantir le luxe de ces voitures. Et d'ailleurs, la compagnie des wagons-lits a bien compris l'importance de faire à un moment donné appel à des artisans d'art célèbres. Donc on pense évidemment à René Lalique ou René Prou, qui sont dans les années 20, fer de lance de l'art déco, etc., qui travaillent d'ailleurs aussi pour d'autres moyens de transport, les paquebots notamment. Et donc la compagnie des wagons-lits va commander à ces deux artisans un certain nombre de voitures, qui vont être d'ailleurs considérées comme les voitures les plus luxueuses jamais mises en circulation dans l'univers ferroviaire. Et donc là, la compagnie, c'est vraiment coup double. C'est-à-dire qu'à la fois, elle propose à ses passagers des conditions de voyage qui sont absolument, pour le coup, fabuleuses. C'est-à-dire à la fois dans le confort, mais aussi dans le visuel. C'est-à-dire que voyager dans une voiture Lalique, faut se rendre compte que, voilà, autour de nous, il y a des panneaux de verre partout, en verre moulé, des boiseries avec de l'acajou, du bois d'ébène, etc. Ou les motifs de René Prou, qui sont des motifs exotiques. Donc c'est souvent de l'acétate de cellulose, ou de l'ivoire, ou de l'étain sur du fond de bouleau de Norvège ou du bouleau de Finlande. Donc on est dans des conditions absolument magnifique. Et surtout, la compagnie s'affiche aussi comme promoteur de l'art déco, comme promoteur donc des artisans d'art français, etc. Et participe d'ailleurs, avec ses trains qui circulent dans le monde entier, à la diffusion en fait d'un style artistique sur tous les territoires qu'elle traverse.
Le wagon-restaurant, c'est le cœur du Rome Express, de l'Orient Express, du Taurus Express et de tous les express de la compagnie des wagons-lits. Là où le luxe doit être le plus ostentatoire. Dans les décors de la voiture, les fauteuils, les tables, la vaisselle, mais aussi et surtout dans la gastronomie. C'est ce qui fait rêver les princes et les princesses, les diplomates et les grands bourgeois qui sont les premiers clients du train. Pouvoir dîner, certes à toute vapeur, mais bien dîner. Et bien dîner, ça veut dire avant tout que son assiette ne se renverse pas toute seule sur les genoux de son voisin à cause du mouvement du train, ou que le verre de champagne ne se vide pas de son propre gré comme un geyser pour cause de trépidations intempestives. Un restaurant sur roue, c'est avant tout un défi technique.
La première difficulté, ce qui d'ailleurs suscite l'admiration de tous les passagers, c'est l'étroitesse de la cuisine qui est vraiment toute petite. On est sur 5-6 mètres carrés maximum. Et donc le cuisinier qui cuisine vraiment à bord, on n'est pas sur des livraisons au fur et à mesure des étapes, pour des services qui sont quand même pour environ 40 personnes, donc c'est pas rien. Alors c'est aussi pour ça que les ingénieurs de la compagnie, dans la conception et la construction des véhicules, pensent aux moindres détails pour que tout soit à sa place, donc les verres, la vaisselle, l'argenterie, enfin, tout doit être à sa place dans un environnement qui bouge. Et ensuite, il y a tout le défi d'approvisionnement du train, c'est-à-dire qu'on a évidemment un avitaillement au départ de Paris, mais quand on arrive à Vienne, quand on arrive à Budapest, des denrées alimentaires, du vin, enfin tout ce qu'on veut, sont aussi livrées dans chaque grande ville. Ce qui pousse la compagnie à développer un réseau à la fois d'ateliers d'entretien, mais aussi de magasins et voire de cuisines centrales et de blanchisseries à travers le monde, qui en fait sont là pour réapprovisionner les trains en nappes, en linge, en alcool, en nourriture, etc., etc.
On imagine la patience des serveurs pour adapter leurs gestes aux courbes du trajet, aux coups de frein, mais aussi à l'exiguïté de la voiture elle-même, à la logistique presque militaire des services, l'empilement des assiettes, la plonge, et ainsi de suite.
Saumon de Hollande, sauce vierge, sel d'agneau de Pauillac, haricots verts de Nice, pommes nouvelles persillées, riz de veau aux asperges d'Argenteuil, poularde de Bruxelles au chaud-froid, salade escoffier, fraises à la Melba, friandises.
Carte des vins, la grappe d'or, château éclair premier cru, cachet du château 1918, Chambertin 1911, champagne GH Mum cordon rouge et GH Mum cordon vert.
Alors la cuisine, il fallait faire durer un peu le plaisir. C'était véritablement une des raisons d'être du voyage. Il faut quand même s'imaginer un trajet de 67 heures. Effectivement, à l'époque, c'était distrayant de voir du paysage et de traverser des pays avec des physionomies tout à fait différentes. Mais il fallait quand même s'imaginer que passer 67 heures, ça prenait quand même du temps. Et du coup, une grande partie de la distraction et du divertissement consistait justement dans les différents repas qui étaient servis. En général, on faisait en sorte de faire durer le plaisir, notamment dès l'apéritif, en servant des chaufroids de volaille et de gibier désossé, cuit en gelée, avec du champagne à discrétion. Ensuite, on passait à table, on avait droit à des nappes blanches, des assiettes en porcelaine, des couverts en argent gravés aux chiffres de la compagnie. On avait droit en général à des plats, là encore, qui n'avaient rien à envier aux plats servis dans les restaurants les plus luxueux de Paris, puisqu'on avait une déclinaison très souvent de 7 ou 8 plats, des terrines de fruits de mer, des assiettes de poisson fumé, du caviar, des filets de bœuf Richelieu, toute une série de plats très traditionnels. Et l'originalité de ces cuisines, c'est que, en plus de servir une vraie cuisine à la française, puisque l'une des vocations aussi de ces restaurants mobiles, c'était de diffuser la culture gastronomique française, ce qui était tout à fait essentiel. D'ailleurs, on a le témoignage d'un journaliste de l'époque qui a beaucoup fréquenté les wagons-restaurants, qui s'appelait Edmond Abou. Il a participé au voyage d'inauguration en 1883 de l'Orient Express. Il racontait que les bons vivants des divers pays que nous traversons ne détestent pas prendre le train pour 2 ou 3 heures, histoire de se remémorer les finesses de la cuisine française et de déguster les excellents vins. Donc, le restaurant aménagé dans un wagon était un moyen, un vecteur de conquête culturelle pour la gastronomie française et un moyen de diffusion. Et cela a été encore plus vrai ensuite avec les paquebots et même les transports aériens. Mais paradoxalement, c'était aussi un moyen de se dépayser. C'est-à-dire que les chefs, d'abord par commodité d'approvisionnement, on faisait des escales dans les différentes gares des pays traversés. Et c'était autant d'occasions de découvertes culinaires. C'est-à-dire qu'on essayait d'assortir en quelque sorte l'assiette au paysage traversé et on essayait d'adapter par conséquent la cuisine et les menus à tous les produits qu'on pouvait se procurer dans les gares dans lesquelles on s'arrêtait. Alors on avait droit à des poissons du Danube, à du caviar frais de Roumanie, à du pilaf des Turcs, autant de choses qu'on avait un peu moins l'occasion de goûter à Paris et qui constituaient autant de souvenirs pour les gourmets et autant de conversations ensuite dans les dîners mondains à Paris.
Taurus Express, 15 février 1930. Hors d'œuvre, sol mornay, guévetche de poulet Ali Pacha, carré d'agneau fleuriste, salade, biscuits glacés, fromage, fruits, café. Taurus Express, 6 mars 1932. Salade parisienne, börek au fromage, tomates farcies, dorade au four, langue froide, foie de volaille en gelée, frito de cervelle, herrings, olives et beurre, poulet au riz sauce suprême, gigot d'agneau rôti, pommes château, courgettes au beurre, salade bouquetière, purée d'aubergine au crouton, fromage d'hiver, gelé aux fruits, fruits de saison.
Après tous ces kilomètres parcourus, on se demande s'il existait un Occident Express et si le train fonctionnait aussi dans l'autre sens. C'était le cas depuis la Roumanie, semble-t-il, où de nombreux passagers, certes des hôtes de marque, mais pas exclusivement, utilisaient l'Orient Express pour rejoindre Paris. Il y eut par la suite des wagons de seconde et de troisième classe, des wagons ordinaires attachés aux trains de luxe, et le train transportait ainsi de simples passagers qui se rendaient d'un point à un autre pour toutes les nécessités de la vie, et plus exclusivement pour le tourisme le plus luxueux ou les déplacements les plus exceptionnels. C'est peut-être cette multiplication des voyages qui a tué l'Orient Express, séparant le train de luxe, devenu un objet un peu kitsch pour Américains, des trains internationaux de passagers malmenés par la guerre froide, puis par les guerres des Balkans et le retour des frontières en Yougoslavie.
Le danger est une composante du voyage d'Orient Express, et ce, dès l'origine.
Blanche Elgamal.
C'est que le train traverse notamment la Bulgarie sauvage, qui est largement et très négativement dépeinte par un journaliste, Henri Hopper de Blevitz, qui rapporte qu'un chef de gare a failli être assassiné par des brigands qui ont également enlevé sa fille de 13 ans, 15 jours avant leur passage à eux, en Bulgarie. Le brigandage est un fait historique mais transformé par la littérature de l'Orient Express. En 1891, certains brigands Athanase attaquent un train ordinaire mais sur la ligne de l'Orient Express. Ils dévalisent les voyageurs. Et à partir de ce fait divers, toute une littérature fin de siècle émerge, notamment en France, sur les attaques possibles au train, et avec la figure du gentleman cambrioleur qui est extrêmement sévère avec les hommes, mais tout à fait charmant avec les dames. Plus sérieusement, la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, c'est le temps des revendications nationalistes des Macédoniens bulgares, qu'on nomme les Komitadji. Et ces Komitadji cherchent à faire sauter le train pour alerter les grandes puissances, surtout dans les années 30. On peut penser à Albert Londres, qui a consacré son dernier ouvrage, Les Komitadji ou le terrorisme dans les Balkans, en 1932, à cette question.
Finalement, est arrivée une locomotive noire et poussive, tirant trois wagons gris, munis de pare-soleil, et d'où s'échappait par tous les interstices une odeur de vapeur et d'huile de machine qui faisait aussitôt penser à tant d'autres gares terminus. Le vieux dépôt de la 7e rue à Washington, Grand Central et South Station, la gare Saint-Lazare, la gare d'Orléans et la gare de Lyon, les stations del Mediodía et la Bahnhof de Strasbourg. Ah, ces repas pris dans les buffets de gare, ces cafés et ces verres à minuit dans les petits bars juste en face, les huîtres chaudes à Grand Central, les langoustes en face de la gare Saint-Lazare, les repas avalés à la hâte à Bobadilla, les châtaignes et les churros en haut de la Calle Atocha, les perdreaux marinés et les escargots arrosés de manzanille, tous ces derniers repas dans toutes ces villes terminus, repas mêlés à l'odeur de la vapeur et au boum-tch, boum-tch, boum-tch des machines, bonbons, cigares, cigarettes. Achetez donc un bon sandwich au poulet, une part individuelle de glace hors ton, garantie fabriquée maison. Plus rien à vendre après le départ du train. Ah, même les sandwichs sous cellophane et l'odeur de couches de bébé dans le New York, New Haven, Hartford. John Dos Passos, Orient Express.
L'Orient Express se nourrit de son propre mythe. Les récits Orient Express comportent toujours les mêmes ingrédients, plus ou moins habilement employés et entremêlés. La séduction, le luxe, la mondanité, le crime. Donc l'Orient Express s'est transformé et s'il s'est arrêté en 1977, il a été relancé dès 1982 sous une forme luxueuse par l'américain James Sherwood, ce qui a été qualifié d'entreprise Disneyland par un auteur de Centre-Europe comme Gregor von Rezzori, pour qui cette résurrection dans le goût américain était particulièrement importune. On est entre kitsch, luxe, avec des frontières qui sont parfois un peu poreuses et qui dépendent bien sûr des individus. Et on peut presque parler à la fin du XXe siècle de fin du mythe, mais cette fin du mythe, on peut même l'évoquer avec la Première Guerre mondiale. Paul Morand, dans Ouvert la nuit, dépeint un train très fatigué, des voyageurs épuisés, et rien n'est attrayant dans tout cela. Et on a une deuxième fin du train après la Seconde Guerre mondiale. Le train perd son appellation de train de luxe, il n'y a vraiment plus rien du tout qui donne envie ou qui fait briller les yeux de qui que ce soit. Donc on est toujours un peu dans l'adieu et dans la résurrection de ce train, à la fois littérairement, avec l'exhumation d'une littérature et de mythes ou de poncifs, crime, séduction, parfois les deux en même temps. On est toujours donc entre le mythe littéraire et le publicitaire, et bien sûr, la marque Orient Express a tout intérêt à ressusciter le crime de l'Orient Express et tous les grands noms de l'Orient Express littéraire.
L'Orient Express, c'est un peu un miroir d'une histoire totale, c'est-à-dire qu'on peut l'envisager d'un point de vue, par exemple, de l'histoire des techniques, voilà, un objet ferroviaire qui évolue au fil du temps, avec des normes ferroviaires qui sont adaptées d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre, l'histoire du design avec les différents styles de l'aménagement des véhicules, etc. Une histoire diplomatique, politique, puisqu'en fait, les trajets, les créations des Orient Express dépendent évidemment des événements politiques. La Première Guerre mondiale en est l'exemple parfait, avec la fin de l'Orient Express qui passe en Europe centrale, qui est déportée vers le sud. Aussi une histoire économique, puisqu'on a vraiment des données qui nous permettent d'analyser quels passagers, quel pouvoir d'achat, etc., etc. Et enfin, une histoire des flux touristiques et tout simplement, évidemment, une histoire culturelle, puisqu'on est vraiment sur deux civilisations qui se font face et qui sont reliées par un objet ferroviaire.
Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, ton glissement nocturne à travers l'Europe illuminée au train de luxe et l'angoissante musique qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré, tandis que derrière les portes laquées aux loquets de cuivre lourd dorment les millionnaires. Je parcours en chantonnant tes couloirs et je suis ta course vers Vienne et Budapest, mêlant ma voix à tes 100 000 voix, ô harmonica Zug. Prêtez-moi, ô Orient Express, Sud Brennerbahn, prêtez-moi vos miraculeux bruits sourds et vos vibrantes voix de chanterelles. Prêtez-moi la respiration légère et facile des locomotives hautes et minces, aux mouvements si aisés, les locomotives des rapides, précédant sans effort 4 wagons jaunes à lettres d'or dans les solitudes montagnardes de la Serbie et plus loin, à travers la Bulgarie pleine de roses. Ode, Valérie Larbaud.
Bonne route, voyageurs. Vous qui croyez toucher l'Orient des yeux et avez, mais dans une magnificence crépusculaire, seulement pris un train. C'était L'Orient Express, un rêve d'Europe, un documentaire de Mathias Sénard, avec Blanchette Gamal, spécialiste de littérature comparée, Arthur Metetal, historien, et la voix d'Élodie Hubert. Recherche musicale, Antoine Villoz. Coordination, Élodie Piel. Équipe technique, Éric Boisset et Nadège Anthony. Une collection dirigée par Florent Latrive. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Vous pouvez retrouver les 4 épisodes de ce podcast original sur franceculture.fr et l'application de Radio France.